Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Tu es grosse, tu es moche, on se demande si tes parents ont bien réfléchi avant de te mettre au monde, sale petit rat. J'ai rêvé de toi un vrai cauchemar, si tu parles, on te bute. C'est par quelques-unes de ces amabilités que certains de nos enfants sont accueillis chaque jour à l'école, de quoi frémir. En France, un élève sur 10 serait victime du harcèlement scolaire, un phénomène aujourd'hui dans les établissements scolaires, un danger à comprendre et à affronter d'urgence. Ce matin, donc, pour cette émission Vivante Église, comprendre le harcèlement scolaire, je reçois Hélène Gazot, vous êtes ancien chef d'établissement dans l'enseignement catholique, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Claire Sellery, vous êtes professeur des écoles et puis vous avez une expérience à l'étranger, en particulier en Grande-Bretagne, bonjour.
Bonjour.
Bruno Imbeck, vous êtes psychopédagogue et vous êtes auteur de prévention du harcèlement et des violences scolaires, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et un petit peu plus tard dans l'émission, nous rejoindra Jean-Michel Punière, qui est docteur en psychologie, spécialiste de la question du harcèlement scolaire. Alors, on va commencer avec vous, Bruno Imbeck. Merci beaucoup de nous faire l'amitié donc d'être présent par téléphone. Vous êtes, si je ne me trompe pas, depuis la Belgique. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Prévention du harcèlement et des violences scolaires » paru aux éditions, je vais y arriver, De Boek Éducation.
Voilà.
Ouais, l'accent n'a pas été pris. Alors, pour lancer cette émission sur le harcèlement scolaire et pour aider à comprendre ce que c'est vraiment, j'aimerais en fait qu'on essaie de... Il y a des clips qui circulent, des clips même qui ont été faits, je crois, par l'Éducation nationale, en France et probablement à l'étranger, pour essayer de comprendre de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation type de harcèlement scolaire et à quel enfer ça ressemble, Monsieur De Boek ?
Alors, ce qui est vraiment, vraiment important de comprendre dans le harcèlement, c'est que c'est toujours un phénomène de groupe. C'est pas deux personnes. Pour prendre un exemple, si je vous bouscule toutes les trois minutes, de manière intentionnelle, répétitive donc, et relativement nuisible, eh bien je ne suis pas un harceleur, je suis juste un emmerdeur, au sens plein du terme. Si par contre, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre, et je me mets à sourire avec cette personne-là, introduisant une forme de complicité, je vais devenir un harceleur, parce que j'ai fiché les rôles, le dominant, le dominé, et les rôles qui sont figés, parce qu'il faut qu'il y ait ce sentiment d'impuissance, d'incapacité de sortir du rôle dans lequel on est enfermé. Je peux prendre le même exemple d'ailleurs, avec les blagues sur les blondes. Hein. Si je suis face à une blonde, comme je suis un homme, je ne suis pas très courageux, je vais rarement le faire en face à face. Parce que si je le fais en face à face, la blonde ne va plus rire, et à un moment donné, je vais me retrouver encombré de la lourdeur de mon propre humour. Je vais donc utiliser d'autres hommes, les regarder et me mettre à rire avec eux à chaque blague sur les blondes. Et là, on va arriver dans un schéma où la personne sera coupable trois fois, coupable d'être blonde, coupable d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire elle n'a pas d'humour. Bah, si ça tombe, c'est parce qu'elle ne comprend pas parce qu'elle est blonde. Et c'est parti. On est dans une situation qui enferme l'autre dans un rapport de domination. C'est pour ça que c'est terriblement nuisible pour l'enfant, parce que ça, ou pour l'adolescent, parce que ça induit ce sentiment d'impuissance qui provoque du désespoir, voire pire, quand on en parle aux adultes mal équipés ou mal outillés pour y faire face, ça induit alors ce qu'on appelle de la désespérance.
Alors, il y a un exemple dans la presse, en France en tout cas, qui est sorti récemment, un certain Jonathan Destin. Alors, c'est un exemple, on va dire, certains diront oui, mais c'est un exemple extrême. C'est un gamin donc qui était victime de harcèlement, qui un jour a été menacé de mort par ses harceleurs, qui lui ont dit « Demain, si tu ramènes 100 euros, on te fait la peau ». Et il raconte « J'ai préféré mourir pour ne plus souffrir ». Il s'est arrosé d'essence et... il s'est auto-incendié, enfin il s'est immolé par le feu. Voilà, ce gamin, grâce à Dieu, j'allais dire, s'en est sorti. Et aujourd'hui, il a écrit un livre de témoignages pour essayer d'alerter l'opinion publique là-dessus. Est-ce que ça prend toujours c'est toujours grave, ou est-ce qu'il n'y a que certaines situations qui sont graves?
C'est toujours sérieux, c'est pas heureusement toujours aussi grave. La situation que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui, à un moment donné, induit un passage à l'acte spectaculaire dont on va parler. Donc c'est pour ça qu'on en a. C'est malheureusement pas un cas unique. Hein. C'est-à-dire l'idée, et il y a un point essentiel d'ailleurs, dans l'idée de se suicider, de mourir. Paradoxalement, je me souviens d'une jeune fille qui avait envoyé un message à ses parents avant de se suicider, en disant, voilà, je ne vous ai rien raconté parce que je n'ai pas voulu vous faire de peine, en vous racontant ce qui m'arrivait. Alors, évidemment que c'est paradoxal, parce qu'elle leur provoque une peine encore plus importante, mais il faut bien savoir que dans nos sociétés, les parents ne sont pas toujours prêts à recevoir les chagrins de leurs enfants. Et souvent, ils ajoutent leur propre désespoir au désespoir de l'enfance. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir autour des enfants et des adolescents, des adultes, que ce soit les parents, mais surtout les enseignants, qui soient réellement outillés pour pouvoir émettre un message très clair auprès de l'enfant et de l'adolescent. Tu m'en as parlé, maintenant ce n'est plus ton problème, c'est devenu mon souci d'adulte. C'est à moi à faire en sorte que ça s'arrête. Et on sait le faire, hein, le projet qu'on mène actuellement en Belgique, qui outille déjà 500 écoles, mais on devrait outiller l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les 3 ans, permet aux écoles d'avoir des réponses efficaces face au problème de harcèlement. Donc il faut vraiment, vraiment sortir de ce que cet adolescent, cet enfant a subi, c'est-à-dire l'idée d'un fatalisme. On ne sait rien y faire, ce désespoir qui s'ajoute à la désespérance d'adultes qui très souvent sont bienveillants, et notamment dans les écoles, mais qui ne savent pas comment faire. Ils veulent agir, mais ils ne savent pas comment agir, et donc parfois ils provoquent plus de dégâts qu'autre chose.
Alors vous allez nous parler de ce que vous montez en Belgique, mais peut-être avant j'avais quand même 2-3 autres questions sur ces situations de harcèlement. Est-ce qu'il y a différents types de harcèlement ? Je ne sais pas, harcèlement physique, psychologique, est-ce que la distinction sert à quelque chose ? Est-ce que vous pouvez nous préciser quelque chose là-dessus ?
Il y a une grande distinction, et qui n'en est même pas réellement une, c'est le harcèlement et le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement n'est pas un autre type de harcèlement, c'est juste une caisse de résonance mise sur la situation de harcèlement.
Alors expliquez ce que c'est que le cyberharcèlement, ce que tout le monde ne connaît pas.
Alors le cyberharcèlement, c'est simplement le harcèlement sur un espace numérique, c'est-à-dire sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, qui fait que vous multipliez la part. Alors je vous expliquais tout à l'heure la situation dans laquelle je prends quelqu'un d'autre à témoin. C'est ce que nous on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant, qui sont le nombre le plus important. L'exemple typique de harcèlement, c'est le Dr House. On connaît le Dr House. C'est une personne qui a énormément de prestige social, comme certains élèves harceleurs qui sont des élèves souvent prestigieux dans leur classe, qui ont une petite cour, et puis tout le monde, effectivement, qui participe en trouvant le harceleur, qui est un dominant, particulièrement séduisant. Alors le problème du cyberharcèlement, c'est que le nombre de spectateurs augmente de manière exponentielle et artificielle très très rapidement. Et donc, je répète, c'est vraiment un phénomène de groupe, le harcèlement. Il y a plusieurs types de harcèlement, des formes variables, mais elles se rencontrent toujours sur un phénomène de groupe. Il y a 2 modèles qui permettent de l'expliquer. Il y a le modèle qu'on appelle d'Olvehus, hein, qui explique simplement que le dominant utilise le groupe pour écraser le dominé. Et le modèle qu'on appelle le modèle de Picasse, qui lui est un peu plus nuancé, il dit attention, le harceleur n'est pas toujours responsable complètement de ce qu'il fait, il est parfois poussé par le groupe pour écraser le dominé. Mais il y a toujours, dans tous les cas de figure, ce phénomène de groupe qui fait que pour l'enseignant, c'est compliqué d'intervenir parce qu'il n'intervient pas vis-à-vis de 2 personnes, mais généralement vis-à-vis de quasiment toute la classe. Et quand je reçois un enfant victime de harcèlement, par exemple, il me dit toujours, mais tout le monde m'en veut, tout le monde est après moi. C'est pas une personne, c'est une personne, sa petite cour, et l'ensemble de la classe qui généralement est d'une manière ou d'une autre impliquée. Je vais d'ailleurs faire un petit exercice, hein, je demande à chacun sur votre plateau ou même aux auditeurs de penser à une situation dans laquelle ils ont vu, au cours de leur période scolaire, quelqu'un souffrir. À moins d'être un alien, tout le monde sait repérer une situation. Et juste après, je vous demande de réfléchir, étiez-vous la victime de cette souffrance, étiez-vous l'auteur, ou étiez-vous simplement un spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a regardé, qui n'est pas nécessairement intervenu, c'est ça qui crée énormément de culpabilité chez ces personnes-là, ou qui est intervenu, mais simplement en riant, ou en rajoutant une toute petite couche. Et généralement, la plupart des personnes se retrouvent dans cette catégorie de participants, c'est-à-dire on participe, mais de manière un peu passive, en laissant faire des choses qui démolissent quelqu'un.
Est-ce que vous pouvez nous dire les symptômes en fait qui peuvent alerter les parents quand un gamin est victime de harcèlement? Alors on parle de humeur maussade, décrochage scolaire, petit peu de dépression.
C'est malheureusement, je vais dire, la question qu'on me pose systématiquement à toutes les conférences et notamment lorsque les parents sont présents dans une conférence.
Et pourquoi malheureusement? Parce que c'est une bonne question.
Alors malheureusement, c'est une très bonne question effectivement, mais je voudrais pouvoir répondre aux parents. Écoutez, il y a un petit bouton vert qui se met au milieu du front de votre enfant et il devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il est harcelé. Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait des signaux très clairs. Il y en a pas. Il y a quelques signaux, une défaillance de l'estime de soi, par exemple, de l'enfant. Hein. Ça, c'est relativement facile à percevoir. Vous demandez simplement à votre enfant si tu étais, ton clone était dans ta classe, donc l'équivalent de toi dans ta classe, serais-tu son copain? S'il hésite ou qu'il vous répond non, c'est que l'estime de soi est perturbée. C'est une des premières conséquences massives. La deuxième, mais elle n'est pas systématique, c'est une phobie scolaire ou une diminution massive, en tout cas, des résultats, parce qu'un enfant stressé, c'est un enfant qui génère de la cortisol et qui est incapable d'apprendre. Et donc, vous avez effectivement, à ce moment-là, des répercussions sur le résultat scolaire. L'humeur, effectivement, peut devenir plus maussade, avec des pics agressifs, etc., mais ce n'est pas systématique. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas espérer pouvoir voir, repérer. Vous savez, tous les enfants en Belgique, notamment, qui se sont suicidés, les adolescents suicidés, on a réuni leurs parents. Aucun n'avait vu quoi que ce soit. Et suggérer qu'on pourrait le voir, c'est culpabiliser très fort d'ailleurs ses parents. Généralement, ils vous disent, c'est une petite fille ou un petit garçon ou un jeune adolescent, une jeune adolescente lumineuse qui a agi après quelques semaines, quelques jours de harcèlement, de cyberharcèlement massif, et on n'a rien vu venir. C'est une réalité, il n'y a pas de signaux tangibles, indiscutables, incontestables, qui permettraient de rassurer. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne doit pas avoir des systèmes préventifs qui repèrent, mais des systèmes de préventifs qui permettent aux enfants de révéler. Donc des dispositifs très sûrs qui leur permettent, par exemple, de prendre la parole de manière sécurisée dans leur.
Alors justement, j'allais y venir. Donc, côté prévention, c'est donc le titre de votre ouvrage, oui. Prévention du harcèlement et des violences scolaires. Vous avez l'air de dire que, je ne sais pas si à partir de votre ouvrage, en tout cas de votre expérience, vous contribuez à mettre un système de prévention en place en Belgique, on imagine dans les établissements publics. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous préconisez en matière de prévention et peut-être ce que vous essayez de monter conjointement avec d'autres en Belgique?
Alors c'est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on le réalise au sein de mon université, donc l'université de Mons, dans lequel on met en place des dispositifs qui permettent à la fois de réguler les territoires. Ça semble idiot, mais vous savez, une cour de récréation, c'est un espace qui est complètement dérégulé tant qu'on ne met pas de règles précises. Je parle vraiment de règles, hein, je ne parle pas de déclaration d'intention. Eh bien, cet espace génère spontanément de la violence. C'est vrai pour les primaires, pour les secondaires, ce sont les couloirs. Mais surtout, le deuxième outil qu'on met en place dans le dispositif, ce sont ce qu'on appelle, nous, des espaces de parole régulés. Alors, très, très, très globalement, hein, ça se réalise avec cinq règles particulières. On suppose que chaque enfant va parler de ses émotions au sein de la classe et que sa prise de parole va être sécurisée, que son émotion va être protégée. Pour le dire simplement, si vous dites « je suis triste parce qu'on se moque de moi », personne n'a essayé de prétendre que c'est de l'humour, que c'est pas de la moquerie, parce que ce n'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie, mais le récepteur. Ça, la première règle, donc une émotion se dit, ne se contredit pas. La deuxième règle, c'est l'adulte, exclusivement lui, qui donne et qui reprend la parole, des bâtons de parole, avec un bout vert pour parler de l'émotion, un bout jaune pour parler de la solution. La troisième règle, elle est fondamentale, on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Le harcelé n'a ni la force ni l'envie de s'attaquer au harceleur, qui est un dominant. Généralement, il n'a pas la puissance pour s'y opposer, certainement pas devant tout un groupe. Donc l'enfant dit « je suis triste parce qu'on diffuse à mon propos des images sur les réseaux sociaux, parce que on », et donc il ne désigne pas. Et la quatrième règle, qui est la plus importante, c'est l'adulte ne se propose pas lui-même des solutions, mais demande au groupe « qu'est-ce qu'on peut faire pour ?» Et là, on a vu pour la personne en difficulté, et là, on a vu un phénomène se manifester de manière systématique, c'est quand l'empathie diminue dans l'interindividuel, elle augmente dans le collectif, et donc vous avez des classes qui change complètement à partir de ce travail-là, le climat d'apprentissage et le climat de la classe. La cinquième règle, c'est l'organisation régulière, systématique et, non altérable de ces groupes. Hein. Ça se fait une fois par mois dans toutes les écoles et on le fait de manière systématique. Quand on met ça en place au mois de septembre, on a 0% de harcèlement. Pour une raison toute simple, hein, c'est que le harcelé sait qu'il y a un espace où il pourra parler et le harceleur pressent qu'il y a un espace où ce qu'il fait sera démonté. Et donc, ça canalise très très fort tous les phénomènes de groupe qui sont naturels au groupe. Hein, parce que ça, vraiment, c'est important de le dire. Le harcèlement répond à des saisons.
C'est-à-dire
Si vous avez un groupe humain contraint et les enseignants eux-mêmes, formant une équipe éducative, sont un groupe humain contraint. Les élèves le sont aussi, sont obligés de rester ensemble pendant un temps déterminé. Eh bien, vous aurez toujours les mêmes phénomènes. Premier moment, un moment d'euphorie communautaire. dans lequel tout le monde va dire qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Ce qui fait qu'en début d'année, au mois de septembre, les équipes éducatives, je dis, j'ai une bonne ambiance entre nous, et généralement les enseignants me disent cette année j'ai une bonne classe. Il y a très peu de situations de harcèlement, voire pas du tout, au mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, c'est ce qu'on appelle nous la basse saison du harcèlement. Puis vous aurez, à partir du mois d'octobre, ce qu'on appelle nous la moyenne saison, qui va inciter d'ailleurs les profs à parler sur le dos les uns des autres, hein. C'est vrai dans tous les groupes professionnels, hein. On commence simplement à se dire, si un tel n'était pas là, ce serait quand même mieux. Et donc c'est ce qu'on appelle nous le délestage progressif des membres, ça dure jusqu'au mois de janvier, à peu près, décembre pour le cyberharcèlement, janvier pour le harcèlement, où vous avez ce qu'on appelle nous une moyenne saison. Il y a des situations d'exclusion qui prennent des formes différentes en maternelle, primaire et secondaire, qui se manifestent partout. Maternelle sous forme de bousculade, en primaire sous forme d'exclusion des jeux, on ne veut pas jouer avec toi parce que t'es pas beau, parce que t'es roux, parce que tu sens mauvais, on va commencer à surnommer, et on aura une fonction identitaire de plus en plus forte avec l'apparition de l'adolescence. Et puis à partir de janvier, jusque la mi-mai, on a ce qu'on appelle nous la haute saison de harcèlement, on y est en plein maintenant, où les situations de groupe sont figées, les sous-groupes et les couples sont encastrés dans les groupes, et vous avez des enfants et des familles complètement désespérées. Et malheureusement, ça va s'arrêter en mai, pour revenir à une nouvelle saison, parce que le groupe sent qu'il va se disloquer. Alors je dis malheureusement pas parce que ça va s'arrêter, hein, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais parce que le fait d'introduire un rythme saisonnier, ça produit chez tout le monde une forme de fatalisme. Et même dans les saisons météorologiques, vous avez des gens qui en juin ne sont plus capables de se réjouir des premiers jours de beau temps, parce qu'ils se disent, de toute façon, il y aura bientôt l'hiver. Donc, le fait de la répétition, c'est ce qui va user les enseignants, c'est ce qui va user les écoles et produire ce qu'on appelle de l'usure de compassion. C'est vraiment un des phénomènes qui impose aussi, je vais dire au ministère, hein, parce que notre projet est soutenu par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous donne les moyens de diffuser auprès de toutes les écoles ce dispositif. C'est pour moi une priorité absolue, parce que non seulement ça produit des dégâts considérables chez les élèves, de la souffrance énorme dans les familles, mais aussi chez les enseignants, hein, qui sont confrontés à ces difficultés de manière répétitive et qui sont complètement démunis quand on ne leur donne pas des outils qui sont adaptés à la prise en charge de ces situations compliquées.
Merci beaucoup, hein, Bruno Humbeck. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Prévention du harcèlement et des violences scolaires, aux éditions de Boeck, c'est ça ?
De Book,
je vais y arriver, aux éditions de voilà. Book. Un grand merci en tout cas. On fait une première pause musicale et puis après, on va voir ça avec nos enseignants et chefs d'établissement plateau.
Petit poussé, chemin faisant, sème l'insouciance, rêve d'enfant. Sourire apprendre jour après jour en affrontant tous ces vautours. Perché, j'admire la vie qui me murmure ainsi que l'on peut être roi, ça dépendait de moi. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort malgré les écorchures. Pas moquer de moi. Blanche comme neige, on nous l'annonce, un pur arpège, l'air du mensonge. Comment faire taire ces calomnies pour mieux se plaire? Après minuit, je préface mon carrosse sans la fée carabosse. On est tous un peu rois, ça dépend de ce qu'on. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi et elle s'est pas moquée, non, de moi. L'amour s'est approché, la vie m'a pas lâché. La vie m'a raconté qu'il fallait. fallait être fort, malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi, et je l'ai écouté au-delà de ses voix. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort, malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi, et elle s'est pas moquée, non, s'est pas moquée de moi. Pas moqué de moi.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission « Comprendre le harcèlement scolaire ». Donc, je vous rappelle que nous sommes en plateau avec Hélène Gazo, qui est ancien chef d'établissement dans l'enseignement catholique, et ici à Toulouse. Claire Sellery, qui est professeur des écoles et qui a une expérience à l'étranger en Grande-Bretagne. Jean-Michel Punière, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette émission, docteur en psychologie, spécialiste de la question du harcèlement. Et au début de cette émission, Bruno Imbeck, psychopédagogue, auteur de « Prévention du harcèlement et des violences scolaires » aux éditions de Book. De Book Éducation, pardon. Alors, avec vous, donc, chef d'établissement et enseignante, on va essayer de voir un petit peu comment ce type de situation peut être approché. Alors, il ne s'agit pas forcément, je préviens tout de suite, de vous demander d'avoir une analyse systématique de ce qui existe aujourd'hui au sein de l'éducation nationale ou de l'enseignement catholique, mais de partir de vos expériences à chacune. Alors, on commence avec vous, Hélène Gazo. Vous avez été chef d'établissement. Est-ce que déjà vous avez été confronté à ce type de situation? Est-ce que vous pouvez nous raconter, sans donner de nom forcément, ce qui s'est passé et comment vous avez fait face comme chef d'établissement?
Oui, on est toujours un peu malheureusement confronté à ce genre de situation. Et surtout, la situation que j'ai vécue, c'était avec du cyberharcèlement auprès de jeunes. Et un groupe d'élèves qui, au départ, étaient d'ailleurs considérés comme des amis. Et ça rejoint un petit peu, effectivement, ce qui a été dit précédemment. Et puis, un leader qui apparaît et qui focalise, effectivement, et entraîne les autres pour, sur le net, dénigrer avec images, slogans négatifs, etc. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas l'élève lui-même qui est venu en parler ou qui en a parlé à ses enseignants, c'est par l'intermédiaire de ses parents et les parents de la victime, entre guillemets, qui sont venus me trouver. Et puis...
Vous vous souvenez comment ils ont détecté ça, en fait? L'enfant s'est confié à eux ou
L'enfant s'est confié à eux et leur a montré, effectivement, ce qui était publié sur elle... sur des réseaux sociaux, en particulier Instagram. Et donc, les parents sont venus me trouver et on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour bien sûr que ça cesse et pour que les harceleurs et les harcelés puissent retrouver effectivement ce climat qui était au départ un climat de confiance et d'amitié. Et c'est quelque chose qui se vit beaucoup dans les établissements catholiques, mais je pense dans tous les établissements. L'importance, effectivement, du dialogue, et ça a été dit aussi, des dialogues avec la famille, avec les parents, avec les membres de ce qu'on appelle la communauté éducative. Donc, l'importance aussi de prendre du temps, à la fois pour écouter, donc écouter la victime, c'est ce que j'essayais de faire, et puis écouter chacune des parties et essayer de montrer qu'on était là pour recréer un climat. Peut-être qu'il y aurait des sanctions, parce que c'est répréhensible, mais que ce n'était pas ça le problème. et de voir ensemble comment on pouvait trouver des solutions.
C'était pas la priorité. La priorité, c'est de recréer entre tout le monde un climat de confiance.
Un climat de confiance, parce que voilà.
Les parents ont accepté tout de suite que la démarche soit, parce que c'est quand même violent d'avoir son enfant qui est.
Alors totalement.
La première réaction, ça soit probablement quand on est parent, c'est d'avoir envie d'aller tirer à minima les oreilles de tous ces élèves. Non,
dans cet exemple-là, les parents n'étaient pas venus demander que les autres soient punis. Ils étaient venus demander qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour que ça cesse et que leur enfant retrouve la joie de vivre et surtout d'envie d'aller à l'école. Donc, ce qu'on a fait avec les parents des harceleurs, mais chacun individuellement, on a discuté du problème. Certains parents découvraient même que leurs enfants étaient sur des réseaux sociaux, ils ne le savaient même pas. Et on a vu comment on pouvait essayer, voilà, de faire prendre conscience à l'enfant. L'enfant était présent pratiquement tout le temps, sauf à certaines parties de l'entretien où les parents préféraient qu'il ne soit pas là pour qu'on discute. Et on a mis en place à la fois la façon de ressouder le groupe, mais surtout parce que je pensais important qu'il y ait quand même une prise de conscience par une sanction. Quelle sanction, parents et nous, on allait mettre en place? Et il y a eu, pour l'enfant, il a vu que et ses parents et l'école avaient le même discours et que c'était important qu'ils en prennent conscience et que surtout cette sanction était pour aller dans le sens de la loi, parce que la loi punit le harcèlement, mais qu'une fois que la sanction serait faite, le plus important c'était de recréer ce climat de confiance entre les membres du groupe.
Quand vous dites que la loi punit, c'est-à-dire en fait un chef d'établissement il a des sanctions entre guillemets qui lui sont suggérées ou...
Dans l'enseignement catholique, c'est le règlement intérieur de l'établissement qui est la référence. Donc il peut effectivement y avoir des sanctions qui sont préétablies, comme on dit. Mais moi, dans mon idée, c'était surtout qu'il y ait que l'enfant voit que ce qu'il avait fait, c'était au niveau de l'école et de la famille, qu'on voulait lui dire c'est pas bien. Tu as mis un camarade dans la peine, en difficulté. Voilà, on va marquer le coup et après on va voir ensemble. Et ce que j'ai trouvé bien, alors c'est peut-être, ça serait bien que ça se produise toujours comme ça, c'est que les parents du coup ont communiqué entre eux. Et à la fois avec les parents de la victime.
Parents de victime et parents de harceleur.
Oui, sans ma présence.
Est-ce que vous avez été confronté souvent, ou est-ce que du coup on peut dire, je sais pas, que c'est un phénomène très très récent, puisque vous êtes plus en poste, vous, depuis quelques années, pas très longtemps, est-ce que pour vous c'est un phénomène récent, est-ce que vous étiez confronté beaucoup?
Alors il y a toujours eu malheureusement ces phénomènes de harcèlement. Le cyberharcèlement est quelque chose de récent. Je ne l'ai connu que en fin de carrière, on va dire, mais que de la maternelle au post-bac, même il y ait ces cas de harcèlement. Alors, quand les élèves sont en lycée ou sont en études supérieures, ça ne se traduit pas du tout de la même façon. Et puis, souvent, la demande des familles et la demande de la victime n'est pas du tout la même. Mais oui, ça, c'est pas un phénomène récent, malheureusement.
Claire Sellerier, est-ce que vous avez, vous, dans votre carrière, été confrontée à ça? Si vous n'avez pas été confrontée, est-ce que vous avez quelques réactions à ce qui a été dit précédemment, entre autres par monsieur Bruno Abeck?
Alors, en termes d'expérience dans le primaire en France, moi, ce qui me choque parfois, c'est l'existence d'angles morts, ne serait-ce que dans la cour de récréation, qui permet l'apparition de phénomènes de groupe contre un individu. Et pour ça, l'attention des enseignants de service est capitale pour ne pas laisser développer un sentiment d'impunité, en quelque sorte.
C'est très intéressant ce qu'il racontait sur les cours de récréation, en disant qu'en fait, c'est une zone de non-droit, quelque part.
Absolument.
On se dit, ils se défoulent, ils jouent, mais en fait, il n'y a pas de règles, c'est
non.
ça ?
Non, il n'y a pas de règles, et il est vrai que la présence ou juste voir une enseignante qui circule dans la cour, qui s'approche d'un groupe qu'elle trouve un peu louche, où elle voit une situation de déséquilibre dans l'activité, un contre tous ou bien un qui semble souffrir, rien que la présence peut parfois atténuer et éclater le groupe de façon à ce qu'il passe à autre chose, quoi, et non pas laisser escalader.
Donc vous n'avez pas été confronté directement, mais en tout cas vous avez été alerté, ou vous trouviez en fait surprenant qu'il y ait quoi des espèces des angles, ce que vous appelez les angles morts, c'est quoi,
alors les angles morts,
zones
ça
de
peut être
non droit éducatif, c'est ça, ou
ça peut être le fait qu'il n'y a pas de regard sur ce que font ce que fait un groupe, je veux dire un regard scrutateur qui se dit attention, là j'ai l'impression que cette petite fille avec ses camarades ça se passe pas bien, je m'approche, je vais voir. Des fois, ça suffit à désescalader ou à désenfler la situation. On parle aussi beaucoup, malheureusement, d'attaques très sérieuses dans les toilettes. Et là, je suis d'accord, c'est un angle mort du fait de l'intimité, etc.
C'est-à-dire, mais, en fait, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?
On ne peut pas y entrer. On considère que l'adulte n'a rien à faire dans les toilettes, mais un enseignant de service doit pouvoir frapper régulièrement et demander est-ce que tout va bien s'il y a un groupe qui s'est engouffré là depuis un certain temps sans ressortir. Mais c'est une attention de chaque instant, je crois. Et c'est très demandeur en énergie, évidemment, à la pause.
Est-ce que l'une et l'autre, dans vos formations respectives, on imagine qu'en plus qu'il y a toujours une formation continue, en tout cas côté chef d'établissement, vous avez été vous-même formé à la question du harcèlement, ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à entrer dans les formations, Hélène Gazo?
Comme vous dites, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans les formations, y compris dans les formations de chef d'établissement, où effectivement, non seulement on sensibilise, mais ça, les personnes le sont la plupart du temps, mais on essaye de voir, justement, dans l'accompagnement qu'on fait avec les nouveaux chefs d'établissement, comment ils peuvent, dans l'établissement où ils arrivent, voir déjà s'il existe quelque chose en matière de prévention, d'accompagnement des familles, de formation des élèves, et puis leur donner, effectivement, des pistes pour pouvoir le faire. Je prends l'exemple... un chef d'établissement que j'accompagne, qui n'est pas de la région, et lui, son souci, ça a été, quand il est arrivé, de mettre en place des élèves médiateurs, partant du principe que c'était d'abord, ça responsabilisait les élèves, et que ça permettait effectivement, peut-être à ces élèves-là, d'être plus à l'écoute de leurs camarades, et de repérer eux-mêmes des situations, et surtout de faire peut-être une interface entre des élèves de la classe et puis des adultes de la communauté éducative.
Quelle responsabilité ils ont, ces élèves médiateurs, en fait? C'est parce qu'ils peuvent vite être pris pour des mouchards dans une classe.
Et... déjà, il y a toute une formation des élèves médiateurs eux-mêmes. Et puis surtout, ça fait partie du projet pédagogique de l'établissement. Donc, toute la communauté éducative, toutes les classes, les professeurs sont avertis et les professeurs sont partie prenante à la mise en place de ces élèves médiateurs. Et on ne devient pas élève médiateur en 3 jours. Il faut souvent toute une année scolaire d'accompagnement, de formation, pour que cet élève puisse, entre guillemets, jouer ce rôle de médiation. Et puis, il y a aussi d'autres instances de médiation dans les établissements.
Claire Salarier, sur ce volant formation, est-ce que vous-même, vous avez été formé là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui, maintenant, peut-être existerait dans la formation des instituteurs?
À l'IUFM, c'est abordé en termes d'écoute, être capable d'écouter la demande d'un enfant et essayer de lui expliquer que ce qu'il dépose auprès de l'enseignant doit être... parfois partagé pour trouver des solutions, parce que l'enfant peut vouloir dire, entre guillemets, un secret, et c'est absolument pas possible pour l'enseignant de résoudre quoi que ce soit dans cette situation-là. En Angleterre, lors de la formation au PGCE, il y a un module
La formation
très, très
PGCE,
fort.
C'est quoi,
c'est l'équivalent CAPES à l'université anglaise. Il y a un module lutte contre le harcèlement dans le cadre du règlement intérieur et de la philosophie d'établissement qui est assez important. Et la structure de l'école anglaise avec des regroupements interâges en houses, comme on a vu dans Harry Potter, ou bien les réunions d'école qui ont lieu toutes les semaines permettent de renforcer tous les messages liés au règlement intérieur anti-harcèlement signé.
C'est quoi ces assemblées? Ces houses et assemblées, vous pouvez juste préciser ce que c'est?
Alors, les houses sont des regroupements interâges de la 6e à la 3e autour d'une couleur ou d'un thème, d'un nom particulier pour organiser des événements sportifs interagent avec des les enfants créent des relations entre eux au sein de ce regroupement, on va dire. En revanche, les assemblées, c'est une réunion obligatoire de toutes les classes, tous les enseignants et l'équipe de direction dans l'établissement, soit quotidienne en primaire, soit hebdomadaire en collège, pour discuter de ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, et souvent le rappel des règles par rapport au harcèlement et de l'attitude à adopter au moyen de scénettes ou de sketchs pour que les enfants puissent réfléchir à leur réaction dans ce type de situation.
Alors, vous disiez un moment, au début de votre intervention là, sur l'exemple anglais, qu'en fait, c'était compris dans le règlement de l'école, la question du harcèlement est intégrée, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Le règlement intérieur est très explicite. Les objectifs de l'école, c'est vraiment de fournir un environnement en sécurité pour apprendre, en sécurité pour grandir. Et du coup, chaque école développe un document d'environ 8 pages de politique anti-harcèlement. Là seront référencées les définitions. En général, si une personne embête une autre personne, c'est même insidieux, etc. C'est pas aussi précis que ce que disait la première personne.
Bec, ouais.
Ensuite, il y a une démarche à suivre, que les enfants doivent connaître pour se sentir en sécurité. Si je suis témoin, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais ? Si je suis victime, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais ? Et si je suis harceleur, qu'est-ce que je risque ? Parce qu'ils n'hésitent pas à indiquer des sanctions qui vont jusqu'à la police dans des cas très très graves.
Pour finir, vous pourriez rajouter aussi que, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, qu'il y a aussi des personnes quelque part qui sont dédiées à l'intérieur de l'école, non pas une surveillance, enfin quoique, à la fois surveillance et à la fois la mission éducative, et donc ça aide.
Oui, dans la structure de l'équipe pédagogique anglaise, il existe des rôles de professeurs qualifiés, susceptibles d'enseigner une matière, qui sont dédiés à l'accompagnement des élèves dans leur vie pastorale. Donc, tout élève avec une difficulté peut aller voir le responsable des sixièmes, par exemple, si c'est un élève de sixième, et cette personne le recevra et creusera la situation, enquêtera ou éventuellement alertera d'autres professeurs, contactera la famille et s'impliquera jusqu'à ce que la situation soit réglée. Il y a des procédures d'enregistrement du moindre acte ou de la moindre fait avéré, on va dire, pour faire vraiment un suivi sur chaque élève et surtout faire tomber le tabou de la violence ou du harcèlement à l'école, qui est souvent secret malheureusement, mais aussi faire progresser l'ambiance générale de l'école vers plus de progrès.
Alors, merci beaucoup pour ce dégagement en Angleterre. En tout cas, on a vu qu'en Belgique et en Grande-Bretagne, il y a des choses conséquentes qui ont été mises en place. Pour la France, je m'excuse auprès des auditeurs parce qu'on n'est peut-être pas assez exhaustif, mais il faut dire qu'on a eu beaucoup de mal en fait à construire cette émission. Voilà, que c'est pas si simple en fait de trouver des gens aujourd'hui qui sont prêts à témoigner ou à parler de cette question du harcèlement. En tout cas, il y a eu des assises nationales sur le harcèlement à l'école en 2011 à Paris, et puis Najat Vallaud-Belkacem, donc le 6 février 2015, ministre de l'Éducation a annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre ce phénomène, entre autres donc un numéro qu'on recitera à la fin de cette émission qui est le 30-20, qui est aussi bien pour les parents que les personnes harcelées, et puis qui a mis en place un certain nombre de concours, on va dire inter-école, pour travailler à la sensibilisation sur cette question. On va faire une deuxième pause musicale. Après, on va avec Jean-Michel Punière, qui est donc docteur en psychologie, qui va nous rejoindre par téléphone, essayer de rentrer encore plus dans le détail de ce que peuvent dire, faire, vivre tant les parents que les enfants harcelés, voire même que les enfants harceleurs.
Tout sais que tu n'as rien. Cette petite main qui serre fort la mienne vaut tous les trésors auxquels on s'enchaîne. Nous n'avons pas grand chose.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission ce matin, donc comprendre le harcèlement scolaire. Et si vous nous prenez par hasard en cours de route, je vous rappelle qu'autour du plateau, il y a Hélène Gazot, ancien chef d'établissement dans l'enseignement catholique, ici à Toulouse, Claire Sellerier, professeur des écoles, et nous a rejoint maintenant par téléphone Jean-Michel Punière, docteur en psychologie, bon connaisseur des questions de harcèlement scolaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous arrivez en fin de cette émission, on a pris le temps avec donc Bruno Imbeck, je rappelle, auteur de Prévention du harcèlement et des violences scolaires aux éditions Debouc Éducation, d'écrire ce phénomène, de voir ce qui se passait en Belgique après d'avoir la réaction d'un chef d'établissement et d'une professeure des écoles. Avec vous, je voulais voir un petit peu plus côté, on va dire, si on rentre dans la situation de harcèlement, on imagine qu'il y a peut-être des auditeurs, des parents qui sont concernés, des enfants même, si ça se trouve qu'ils sont adolescents, ça peut arriver qu'ils écoutent Radio Présence, les aider à leur donner des clés. Alors commençons par les parents. Comment, monsieur Imbeck, au début de cette émission, expliquait que c'était très difficile en fait de déceler une situation de harcèlement chez un enfant, voire même ce qui peut faire peur aux parents. Il disait que parfois tout peut basculer très rapidement. Alors qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux parents pour être des bons acteurs d'une juste prévention?
Très bien. Ben, tout d'abord, c'est vrai que c'est difficile à le déceler. Alors, il peut y avoir parfois quelques signes. Un enfant qui se sent mal, qui aurait des problèmes de maux de ventre, de tête, des choses un petit peu comme ça, et qui aurait envie, par exemple, beaucoup de rester à la maison, de plus aller à l'école tout d'un coup. Des changements brutaux aussi qui peuvent être liés à son comportement aussi bien à la maison qu'en milieu scolaire. Par exemple, un élève qui tout d'un coup deviendrait beaucoup plus insolent. Des choses comme ça, une baisse de résultats scolaires, un changement, quoi, disons. Hein. Des traces aussi de cyberharcèlement qui pourraient être repérées par les parents, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, voilà, quelque chose qui pourrait alerter. Mais c'est vrai que globalement, dans la plupart des cas, c'est très difficile à le voir. Alors, ce que j'aurais tendance à conseiller, du coup, ce serait à rentrer pour les parents d'eux-mêmes dans la communication, avec, dans tous les cas, avec leurs enfants sur ce thème, d'en parler, d'aborder le sujet de la question du harcèlement pour voir si, en leur demandant si, par exemple, ils en connaissent dans leur établissement ou, et discuter ensemble, et ça peut permettre aux jeunes qui seraient concernés de petit à petit l'exprimer. Sachant que ils vont pas forcément tout de suite en parler, même s'ils sont concernés, parce qu'il peut y avoir beaucoup de freins, beaucoup de peurs autour du fait de communiquer là-dessus.
Alors imaginons deuxième étape ou deuxième cas de figure, que des parents en fait comprennent que leur enfant est concerné.
Oui.
Qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors imagine que votre parole, j'allais dire, il peut y avoir différentes sons de cloche, probablement il n'y a peut-être pas une manière de réagir, mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents? On imagine aussi que, comment dire, qu'il faut aider l'enfant en fait à faire la démarche lui-même, à s'en sortir par lui-même pour l'avenir.
Alors, oui, mais en même temps, l'enfant peut être dans une situation très délicate à ce niveau, puisqu'il y a dans le harcèlement un déséquilibre entre bon, la victime et le ou les auteurs. Et donc, souvent, la personne est coincée à ce niveau-là, bien qu'après, bien sûr, en faisant un travail à côté pour reconstruire son estime de soi, pour favoriser la communication, on peut l'aider elle-même à participer à s'en sortir. Mais donc, les parents eux-mêmes, on va retrouver la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la communication qui reste pas seule, qui puisse ben, contacter. Bon, alors il existe des lignes d'écoute comme le 30-20 qui est spécialisé sur cette question, mais aussi qui puisse s'adresser bon à des professionnels de l'établissement et pas forcément à une seule personne, car des fois on a beaucoup d'attentes. Du coup, la première personne à qui on s'adresse, ben, on espère qu'elle va faire quelque chose, et puis elle peut elle-même être en difficulté pour agir, et donc ne pas hésiter à en parler plus largement. Et donc, par exemple, j'ai été contacté récemment par des parents qui ont souhaité qu'on fasse un travail ensemble au sein de l'établissement dans lequel leurs enfants sont scolarisés. Donc, en se rencontrant avec l'établissement, avec moi-même en tant que donc psychologue, et mettre en place une action qui se travaille avec les jeunes, mais aussi avec l'équipe éducative. Voilà, donc une question un peu de coéducation comme ça, hein, le lien entre les parents et l'établissement, un maximum autour du dialogue, quoi.
Alors, si on continue, hein, côté enfant, oui. Imaginons qu'il y a un adolescent qui nous écouterait oui. et qui serait concerné. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment sortir de cette situation pour lui douloureuse, voire impossible?
Un enfant qui serait victime, donc. Eh bien, souvent, le jeune, justement, va avoir beaucoup de freins, de peurs. Pour pouvoir en parler, pouvoir communiquer, hein, puisque c'est l'idée, ce sera qu'il faudrait qu'il puisse parler à quelqu'un et communiquer. Donc il va peut-être identifier quelqu'un qui serait de confiance pour lui, à ses yeux. L'idéal, c'est qu'il identifie plusieurs personnes, pour pouvoir, comme je disais, en parler à plusieurs personnes et être plus sûr. Il va pouvoir peut-être s'appuyer sur des personnes qui ont été témoins, qui eux-mêmes, des fois, ont peur de communiquer, mais enfin, ça peut être important. Il peut justement essayer d'identifier ses peurs, c'est-à-dire quand il va en parler par exemple à ses parents, à un adulte ou à quelqu'un d'autre, qu'il exprime aussi ce qu'il craint, ce qu'il redoute, pour pouvoir ben, le laisser de côté, pouvoir plus travailler ensuite sur la situation elle-même et voir comment la résoudre. La question des émotions, voilà, qui sont là et qui sont souvent mal vécues.
Alors peut-être juste, excusez-moi, sur le volet peur, est-ce que vous oui. pouvez apporter des précisions? Parce qu'on peut peut-être avoir du mal à comprendre que oui. L'élève, enfin, il y a, comment dire, plutôt sur la question de la honte, parce qu'avoir peur, ça, oui. on peut imaginer que si c'est un groupe, on peut, la peur est bien compréhensible, mais souvent on oui. dit que ces enfants ont honte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, et pourquoi ils ont honte, et pourquoi c'est important de bien comprendre?
Oui. Alors, ben, la honte, c'est parce qu'il y a une dégradation de l'estime de soi, bien souvent. Donc, une dévalorisation. La personne peut, dans l'impuissance qu'elle ressent, se sentir comme responsable, entre guillemets, et même si elle ne l'est pas, de ce qui lui arrive. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être liées à la question, alors, qui concerne plus particulièrement les garçons, qui sont un tout petit peu plus concernés, en général, par le harcèlement, à part le harcèlement, le cyberharcèlement, mais la question de paradoxe qu'il peut y avoir dans notre éducation au niveau de la virilité, quoi. On attend des garçons qui soient toujours forts, qui soient insensibles, qui soient... Donc ça peut être très difficile pour eux de se confier si justement ils sont victimes de ce type d'intimidation. Et c'est aussi une des choses auxquelles les parents peuvent être attentifs, aussi bien si leur enfant risque d'être victime comme ça, que de quelles valeurs ils communiquent, disons, à leurs enfants, qui peuvent être eux-mêmes harceleurs, justement par ce mécanisme de compétition, finalement. Au lieu d'être solidaire avec les autres, on encourage quelque part à être le plus fort, celui qui, justement, va réussir, et parfois au prix d'écraser les autres, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'il y a tout un thème autour de ça, et le jeune qui ne parvient pas à s'inscrire comme ça dans cette norme et dans ses attentes que peuvent avoir les parents ou le système éducatif ou notre société en général, eh bien risque d'autant plus d'avoir une forme de honte, et pour la compenser, pour retrouver l'estime de soi, peut croire à tort qu'il faut à son tour qu'il reproduise cette logique, et tombe lui-même dans le harcèlement à son tour, mais en tant que harceleur. Oui, tout à fait, ça arrive assez souvent.
Voilà. Il y a même des blagues qui circulent sur Internet. Enfin, je ne sais pas si c'est trop le moment de faire des blagues, mais expliquant que peut-être certains patrons un peu trop sévères entre eux auraient et même été victimes de ça. Enfin, peu importe, la blague était un peu déplacée. Veuillez m'en excuser. Je vous proposais, en fait, au début de votre intervention, en fait, de nous parler aussi de côté enfant harceleur, mais peut-être plus à destination. Ma dernière question sera à destination, en fait, des chefs d'établissement ou des enseignants qui sont donc en plateau, entre autres. On peut avoir l'impression, alors une fois de plus, cette émission n'est pas exhaustive, mais qu'en France, on est au début d'une prise de conscience. Vous, on imagine que vous faites des interventions sur ce sujet. Enfin, je ne sais pas si vous en faites.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'établissement, oui. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'établissement et aux corps enseignants?
Alors, la meilleure façon de réagir, à mon avis, bon, c'est tout ce qui concerne justement la prévention, le fait de se sentir concerné. Par exemple, quand on regarde justement ce qui a été fait par le ministère, là, le travail qui s'appelle non-harcèlement, ça commence par dire que tous les établissements rencontrent des situations de harcèlement en milieu scolaire, alors qu'on a tendance au contraire à dire « je suis pas concerné ». Et donc, à partir de là, mettre en place un travail dans la coéducation avec les parents, avec l'ensemble de l'équipe, même si on n'a pas une situation qui est ressortie directement, commencer à le travailler. Et ça se travaille surtout sur le climat scolaire, justement. C'est question de ces valeurs, dans quel contexte on s'inscrit. Le harcèlement apparaît pas dans n'importe quel contexte, et il y a un climat scolaire qui peut être potentiellement dégradé avec des valeurs autour justement de la violence, de la compétition, plutôt que de la solidarité ou de l'entraide. Mmh. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'on peut le plus agir, quoi.
Hélène Gazot, le mot de la fin.
Bon, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, effectivement, sur l'importance de la sensibilisation de toute la communauté éducative et de travailler ensemble à instaurer, effectivement, ce climat d'empathie qui fait que ça peut empêcher ces actions de harcèlement. Et au niveau des mesures qui sont prises et au niveau aussi même des concours qui sont lancés, que ce soit par l'éducation nationale ou par l'enseignement catholique en association, ça peut être un moteur parce qu'il y a un enjeu, il y a un deal à respecter et surtout il y a un accompagnement qui peut être très porteur. Mais la cohésion de l'ensemble de l'équipe et la prise de conscience est effectivement très importante.
Eh ben, merci beaucoup à tous d'être venus nous parler donc de cette question grave, s'il en est, du harcèlement scolaire. 2-3 informations à la fin de pratique de cette émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage donc de Bruno Imbeck, Prévention du harcèlement et des violences scolaires, aux éditions Debouc Éducation, et un numéro de téléphone, donc le 3020. Le 30-20, donc pour les parents et personnes donc victimes de harcèlement. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.